d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
Alors, Fabien et Carole, on parle de quoi aujourd'hui ?
On parle de quoi aujourd'hui ?
Carole, imaginons que tu aies le choix lors de ton prochain voyage en avion de choisir la place qui te fait plaisir. Alors, je parle pas d'aller en business ou d'aller en first, hein. Parle quand on voyage en classe éco, ce qui est, je pense, le cas pour la majorité d'entre nous. Tu choisirais quelle place ?
Alors moi, je prends souvent côté couloir parce que je me lève souvent pour aller faire pipi, forcément. Mmh. Je bois beaucoup dans l'avion, donc je vais forcément régulièrement aux toilettes. Et du coup, je prends côté couloir et si je peux, au plus près de... Très devant.
Bon, devant. Proche des toilettes ou plutôt éloigné ?
Plutôt proche.
Plutôt proche. Bon, ben tu vas voir que c'est pas forcément les meilleures places, ce que tu viens de nous dire.
Mais c'est plus confortable pour moi.
Ouais, et bien on terminera justement avec ça, la place à privilégier pour un long trajet. On va étudier plusieurs cas de figure ce matin, notamment si on est grand. Ça vaut si on mesure plus d'un mètre 80, voire même un petit peu en dessous. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, suivant les vols, suivant les compagnies, on a peu de place pour les jambes. Alors, première chose, voilà, si on est grand, près des issues de secours, il faut avoir plus de 18 ans pour avoir accès à ces places. Il faut être en bonne condition physique, puisqu'en cas de problème, c'est vous qui allez ouvrir les portes de l'avion.
Ah bah moi, faut pas me mettre là-bas, alors, avec la force de mouche que j'ai, laisse tomber. Hein. Quelle horreur.
Donc, attention, mais c'est là où on a le plus de place, dans les rangées, ou alors près d'un couloir pour pouvoir étendre les jambes. Bon, c'est un peu la solution, tu vois, la roue de secours, mais c'est pas forcément terrible, terrible. Ouais. Si on voyage avec un bébé, il faut privilégier les premières rangées de chaque zone, parce que déjà, il y a un peu plus de place pour les jambes, et puis souvent, il y a des petites choses pour pouvoir changer un bébé, par exemple, ou il y a des choses qui sont prévues justement pour les mamans qui voyagent avec des bébés. Si on a peur de l'avion, il y a deux places à privilégier. Si on a une peur un peu modérée, il faut privilégier les places juste avant les ailes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on ressent le moins les effets de l'atterrissage, du décollage. Et en cas de perturbation, c'est là qu'on sent le moins les secousses. Voilà,
Juste devant
les ailes. Alors si on a vraiment une grosse phobie, il faut se mettre à l'arrière, puisque potentiellement, c'est là où on a le plus de chances de survie en cas de crash.
Ah oui, voilà, super. Mais est-ce que véritablement, si on se crash, on a des chances de survie ?
Ça dépend du crash. Ouais. Si c'est un crash important ou un petit crash, vois. Termine avec le long trajet, parce que c'est surtout pour ces trajets-là qu'il faut se poser la question. Paraît-il, il faut se mettre côté hublot, parce que le problème, c'est qu'on risque... ça dépend si on a besoin de se lever souvent pour aller aux toilettes, mais si vous mettez côté couloir sur un long trajet, il y a des chances que vous vous leviez souvent pour laisser passer votre voisin, aller se dégourdir les jambes ou aller aux toilettes. Et justement, contrairement à ce que tu pensais, il faut se mettre loin des toilettes, parce qu'il y a souvent du trafic, il y a souvent du passage.
Je sais bien. Moi, j'aime bien regarder qui va aux toilettes. Non, mais j'aime bien. Et là, je me dis, toi, tu y es allé déjà il y a moins d'une demi-heure. Donc, à mon avis,
tu as mangé mexicain hier soir.
C'est plus la petite commission là cette fois-ci. J'adore faire ça, moi.
T'es un peu la commère des toilettes dans l'avion.
Complètement. J'aime beaucoup. Tu vois, je fais le référencement de tous ceux qui sont déjà allés aux toilettes et ceux qui n'y sont pas encore allés. Bref, il y a Olga qui justement nous dit bonjour à moi pour un vol long en placement sur les ailes en cas de perturbation. Il y a moins de secousses, effectivement.
Voilà, c'est ce que tu disais,
côté couloir pour me lever, pour marcher un petit peu, et puis si le vol est court, deuxième rang. Bonne journée à tous, tu vois, c'est très taillé.
Elle étudie le truc, Olga. C'est une professionnelle de la place dans l'avion.
Ça se voit.
Le meilleur de l'AC en replay
sur radiolac.ch.
poils.
Il suffit de demander.
Il suffit de demander. Marc-Antoine Bossard, c'est le vétérinaire d'Il suffit de demander. Il est là chaque lundi pour vous. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Sophie.
Centre vétérinaire des sources à Genève. Alors la semaine dernière, on a commencé à parler des infections du chat, mais il y en a beaucoup. Donc pour une seule chronique, ça faisait beaucoup.
Virale, oui.
Infection virale, infection virale du chat. Et là, on continue. Donc seconde partie, on parle précisément du coryza. Du chat. Alors qu'est-ce que c'est? Ça se manifeste comment le coryza? Ce sont
voilà,
les yeux, c'est ça?
On va parler d'une maladie respiratoire, surtout du chat, avec une infection des yeux, une infection du nez, de la gorge, dans des éternuements, de la toux, de la température, perte d'appétit, effectivement. Et puis, ça peut être fatal chez des jeunes chats.
Ah oui
Parce que une fois que la maman a délivré ses anticorps à travers le lait maternel, le chat se retrouve démuni. Et puis s'il attrape à ce moment-là un coryza, eh bien oui, ça peut avoir des conséquences importantes, même des coryza chroniques. Oui.
Comment on attrape le coryza? Enfin, comment le chat l'attrape?
Alors c'est une transmission par contact, par sécrétion des voies oculaires, nasales, éternuements, choses comme ça. Donc c'est très contagieux, oui. Et donc c'est la raison pour laquelle à l'âge de 8 semaines, 9 semaines, on vaccine, primo-vaccination des chatons, puis rappel après 4 semaines. Mmh. Et en général, voilà, on a des chats qui développent une bonne immunité. Moi, personnellement, aux sources, je vaccine encore une fois après une année. Mmh. Après, j'aurais tendance, pour des chats qui restent à l'intérieur, à répéter la vaccination tous les 2 ans, d'accord, puis recommencer une vaccination annuelle à partir de 10 ans, 11 ans, quand les chats ont une immunité quand même qui est moins performante que quand ils sont jeunes.
Dans les infections qui sont virales, il y a aussi une maladie qui est assez grave quand même chez le chat. La PIF, c'est ça?
Alors la PIF, oui, alors il y a des séries comme ça où tout d'un coup on a des chats avec c'est une péritonite infectieuse féline, là aussi qui est transmissible par les sécrétions, elle est redoutable et c'est certainement pas un scoop, mais aujourd'hui on a un petit espoir dans le traitement de la FIP que nous n'avions pas du tout il y a 4 ou 5 ans. Maintenant il y a quelques espoirs d'atténuer et de, dans certains cas de guérir les chats.
Parce que jusque là le chat était perdu, il n'y avait pas de traitement, on est d'accord,
Oui, c'est-à-dire contre les virus malheureusement il n'y a pas de traitement efficace, donc c'est la vaccination qui prévient. Mais sinon, une fois que le virus est là, les antibiotiques n'ont pas d'effet. On va les administrer, on va administrer des anti-inflammatoires pour atténuer les symptômes et les surinfections bactériennes suite à la venue du virus. Mais en fin de compte, oui, il vaut mieux vacciner, ça c'est sûr, quand on le peut.
Merci beaucoup. Vous savez que c'est la dernière de l'année. On va se retrouver en 2024.
Alors, avec un grand plaisir.
Mangez pas trop de chocolat quand même.
Non,
et attention,
j'ai pas d'allergie.
Pas de chocolat pour nos animaux domestiques, on est d'accord?
Les chats, les chiens, en tout cas.
Merci beaucoup, Marc-Antoine. De merveilleuses fêtes de fin d'année.
Et je vous dis. Je me réjouis de vous retrouver à Delap.
Eh bien, le lundi 8 janvier 2024. Merci beaucoup. Et d'ici là, en podcast, radiolac.ch.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. 6h-10h sur Radio Lac. Mais c'est quoi le hic ?
Carole, comme nous tous, tu vieillis.
C'est vrai.
Ouais.
Le hic, c'est que je vieillis, Fabien, tout simplement. Et plus je vieillis, plus je consulte. Et pourtant, je suis pas en mauvaise forme, mon Fabien. Au contraire, non ? Mmh. Tu trouves pas ?
Moi, je te trouve plutôt pimpante.
Ouais, oui. Bah écoute, tu sais, il y a quelques années, je travaillais déjà dans ce groupe de radio. Et à l'époque, j'avais même pas l'âge de cotiser pour la caisse de pension vieillesse. Et quand j'entendais quelques vieux collègues, et aujourd'hui, je m'excuse vraiment de les avoir considérés comme des vieux, évidemment, voilà, ils parlaient constamment de leurs insomnies nocturnes.
Ouais.
Et tu vois, à l'époque, moi, je me croyais immunisée à vie à tout ça. Je me disais, oh là là, mais il faut vraiment être d'un âge avancé quand même pour avoir ce genre de problème. Ne pas dormir. Bah voilà, aujourd'hui, mon heure est arrivée. Et voilà.
Bienvenue le matin, parce que ça, c'est l'effet matinal.
Hein. Ah oui, clairement. Et c'est forcément, ça a été souligné et encore plus accentué par l'effet matinal. Je consulte un acupuncteur pour mes propres insomnies. Et comme si le dieu du sommeil, tu vois, m'avait entendu à l'époque et qui m'avait dit... T'inquiète pas, ma grande. Je t'oublierai pas. Et quand ton heure sonnera, les cernes tu auras. Voilà, avant l'acupuncteur, j'ai essayé plein de trucs différents, bien sûr. Hein, la camomille, la lavande sous le coussin, la mélatonine, une heure avant de dormir.
La fameuse
le
camomille.
Le sexe, l'alcool, ouais. La presque drogue. Non, rien n'y fait. Voilà, je m'endors bien. Hein, ouais. J'ai pas de problème à l'endormissement. Mais vers 3h du mat, paf, je me réveille. Nuit terminée. Fini,
oh,
rideau. Voilà.
Oh, terrible.
Une heure et demie quand même avant le réveil. Mm. Bref, alors je suis passée aux aiguilles parce que plus je vieillis et plus je suis sensible au changement de lune, hein. C'est une horreur, hein. Tu sais, sans regarder le calendrier lunaire, je suis capable de dire, tiens, dans 2 jours, c'est la pleine lune, je le sais. Voilà, alors quand ça m'arrive, avec mes grosses poches sous les yeux, je regarde mon acupuncteur et je lui dis, je suis au bout de ma vie, piquez-moi, j'en peux plus, faites-moi dormir, franchement, c'est un état dépressif, j'en ai marre. Et tu sais quoi ? Eh bien, le mec, il est magicien, et je voulais absolument vous en parler. Cet homme, à chaque fois que je sors de chez lui, j'ai le même discours, à savoir, non mais Fabien, c'est une chance d'être sensible à la lune, tu sais. Je dois accueillir la nouvelle. Non, mais je dois vraiment m'en servir pour avancer dans la vie parce que c'est pas donné à tout le monde d'être sensible à la lune. Regardons un petit peu le ciel, les amis. Arrêtons d'être auto-centrés. Voilà, c'est moi après une séance d'acupuncture. Tu sais où est le problème, par contre ? C'est que généralement, ça dure 3-4 jours. Et après, ça revient.
Il faudrait faire des séances deux fois par semaine.
Exactement.
Ouais, voilà. C'est un peu le problème. Mais au moins, tu es bien.
Et
là,
voilà,
tu es dans ta bonne période.
Ah bah là, je suis dans mes 3-4 jours piquée. Je suis bien. J'accueille. J'accueille beaucoup de choses.
Donc, pour résumer, ton acupuncteur a une aiguille magique.
Ah oui, il a une aiguille magique.
C'est ça. Incroyable.
Ah non. Des aiguilles magiques.
Ah, des aiguilles.
Je ne parlerai pas de son aiguille magique. Ça ne nous regarde pas. Et moi,
ça
non
t'a
plus,
fait
d'ailleurs.
Du bien. Ça fonctionne. Et tant mieux.
Ça me fait du bien.
Bon.
3-4 jours, c'est bien le problème. Ça coûte 200 balles pour 3-4 jours quand même. Hein.
On va essayer d'en profiter durant ces 3-4
ouais.
jours.
Le meilleur de Lac en replay sur la nouvelle application Radio Lac. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I need from you.
and comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word, everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you.
Sophie Gaillard.
Sophie Gaillard.
Il suffit de demander sur Radio Lac.
C'est mardi, c'est la cuisine, les trucs et astuces des Arts Tabasion. Bonjour Hazard.
Bonjour Sophie, vous
alors,
allez bien?
Oh, moi ça va toujours bien quand je vous vois. Alors qu'est-ce qui se passe? On parle de quoi ce matin?
On va parler des herbes fraîches.
Oh, c'est bien ça.
Ah oui. Alors, vous savez, chez moi en Iran, on les mange, il y a toujours à table les herbes fraîches. On les mange comme ça avec alors, le repas.
Est-ce que vous pouvez nous préciser pour vous les herbes fraîches?
Basilic, persil, voilà. Coriandre,
les
estragon,
aromatiques. Quoi.
Voilà. C'est plein de vitamines, c'est surtout très bon. N'hésitez pas à les utiliser pour vos préparations, pour les apéros. Ah. Vous savez que je suis très apéro.
Ah, vous êtes très apéro.
Oui.
D'ailleurs, vous m'invitez quand?
Ah, bah bientôt, quand vous voulez.
Ok.
On mélange de l'oignon frais avec de l'estragon et un fromage à tartiner du type Saint-Mauré. Mmh. Ça vous fait une petite tartinade pour vos toasts. Ouais. Super.
Oui.
Avec la variante aussi, menthe tomate feta.
Oh, c'est bon ça.
Ah, c'est très très bon, je confirme.
Mmh.
Ou alors, vous pouvez aussi mettre du basilic, des tomates, oignons frais, vous ajoutez un peu de jambon cru et hop, vous avez une très très jolie verrine.
Oh.
Pour votre apéritif.
Mmh.
Dans une omelette, vous mettez un mélange d'herbes, ça va vous donner plein de peps, plein de goût. Vous allez avoir une omelette toute verte, toute jolie.
Moi, je mets du la ciboulette dans l'omelette, moi. J'aime
aussi,
bien. Ciboulette,
oui.
C'est bon. Hein.
Mais faites un mélange persil, coriandre, ciboulette.
Ah oui. Ah, j'aurais pas osé la coriandre avec le foyer.
Ah si.
D'accord.
Si.
Ok. Très
et
bien.
Vous verrez, c'est très bon.
Mm-hmm.
Et puis il y a aussi les infusions, par exemple le thym et le romarin.
Oui.
Que vous pouvez légèrement sucrer et boire froid en été. C'est délicieux.
Ah.
Avec un petit peu de citron.
Oh oui.
Ça vous changera d'été froid industriel bourré de sucre.
Oui, d'accord, très bien. Alors, merci.
Non, mais pas vous.
Non, mais je sais. Je fais mes infusions toute seule, moi. Mais je mets de la menthe, gingembre et citron. Moi, je mets
aussi,
la totale.
Ouais. Oui, mais thym romarin en frais, c'est pas mal du tout.
D'accord. Est-ce qu'il y a deux herbes qui ne vont pas ensemble, qu'il ne faut pas mettre ensemble dans une préparation, par exemple? Enfin, que vous ne feriez pas?
Que moi je ferais pas.
Moi, ouais, les associations un peu. Je sais pas, une herbe comme l'estragon, c'est un peu spécial quand même.
L'estragon, c'est fort. Je l'utilise par exemple avec du persil, avec la ciboulette.
Oui.
Mais je mettrais pas forcément avec la coriandre.
Oui, vous avez raison. Merci, Hazard.
Ça fait deux goûts bien prononcés.
C'est vrai. Non, c'est vrai que ça fait. Il faut penser à aromatiser. Notamment si vous êtes par exemple, en régime, rééquilibrage alimentaire, eh bien, les herbes aident beaucoup.
Bien sûr, et en plus c'est plein de vitamines. Il faut arrêter d'en utiliser qu'un tout petit peu.
Allez, utilisez les herbes. Ne les fumez pas, mais utilisez-les. Manger. Merci beaucoup, ma chère Hazard.
Merci Sophie.
On vous retrouve en podcast
la semaine prochaine.
Sur la page, il suffit de demander radiolac.ch et je vous dis à mardi prochain. Merci.
À mardi, au revoir.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
Fabien et Carole, on parle de quoi aujourd'hui ?
On parle de quoi aujourd'hui ?
Gros débat dans l'équipe ce matin.
Gros débat
pour ou contre les chaussettes la nuit dans le lit.
C'est ça, les chaussettes. Mais c'est vrai que voilà, c'est un confort dans les chaussures, hein, protection contre l'abrasion,
évidemment,
isolation thermique, régulation de l'humidité. Les chaussettes ont des fonctions nombreuses. Elles nous rendent la vie plus facile, bien entendu, avec tous ces talents. Il y a aussi des contreparties, l'élément forcément esthétique, le port de chaussettes dans les claquettes, on en parle.
Ah oui, mais alors ça, malheureusement, ça se démocratise. Hein.
Moi, j'y vois une offense terrible, visuelle en tout cas, et la chambre aussi est un territoire au sein duquel le statut des chaussettes fait débat. Là encore, les perceptions, elles varient. Team chaussettes ou pas, pour dormir, certaines sont appuyées par des études très très sérieuses, mais peine à convaincre les plus réticents. Je crois que toi, c'est ton cas.
Ah, mais moi, je ne supporte pas d'avoir les chaussettes quand je dors.
Je ne supporte pas avoir des chaussettes quand je dors.
Ouais, moi, j'aime avoir les pieds nus, j'aime presque cette petite sensation de froid sur les pieds. Hop, tu les glisses
je
sous
suis
le duvet.
Comme
tu vois.
Toi. Et voilà. Pourtant, porter des chaussettes au lit, pour certaines personnes, c'est une habitude saine et plutôt normale. Hein. Les partenaires ne sont pas forcément de cet avis, mais disons-le simplement, sans en faire trop, les chaussettes peuvent créer de véritables clivages au sein d'un couple. Oui, des engueulades. Et pourtant, les défenseurs de la chaussette nocturne peuvent compter sur des travaux scientifiques pour étayer leur point de vue, parce que dormir avec des chaussettes, c'est source de bienfaits, Fabien. Eh oui, c'est bon pour la santé. Avec les pieds chauds, on dormirait mieux. La température corporelle est un élément clé pour l'endormissement, ça on le sait, et un sommeil paisible. Et encore mieux, hein, les chaussettes pourraient vous aider à atteindre l'orgasme plus facilement.
Mais non.
Si apparemment.
Gardez vos chaussettes
selon
pendant les séances de cabriole.
Ouais, on profite donc mieux du moment, les pieds couverts.
Okay.
Pour les réfractaires, il suffira simplement de fermer les yeux. Hein. Et puis vous imaginez peut-être avec la
possible voisine.
Quoi qu'il en soit, voilà.
Oh
mais cependant, on peut quand même apporter de l'eau au moulin, des anti-chaussettes au lit. Parce qu'il y a une étude anglaise qui a été menée en contrepartie pour une compagnie de matelas qui a de quoi quand même faire réfléchir. Puisqu'éviter les chaussettes sous la couette, ça demande quelques conditions supplémentaires. Selon l'enquête, 18% des personnes interrogées avouent porter des chaussettes pour dormir. Et là où les choses deviennent très très problématiques,
ouais,
c'est que 70% de ces chaussettophiles reconnaissent sans gêne que les dites chaussettes sont portées tout au long de la journée.
Mais non,
plus ce soir.
Mais non.
Au lit.
Donc tu veux me dire
allez,
que
hop, c'est parti.
ceux qui sont adeptes des chaussettes au lit pendant la nuit sont
exactement,
gardent les mêmes chaussettes que la
ils
journée.
Ils les ont usées toute la journée dans leurs chaussures. Ils ont transpiré dedans.
Oh
c'est
là
complètement dégoûtant.
Ah
donc
oui,
pour l'amour, faut non seulement fermer les yeux, mais se boucher le nez. Exactement.
C'est bien résumé,
Béatrice.
C'est
quand même fou. Moi, j'ai trouvé quand même assez incroyable. Et alors, du coup, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont fait des prélèvements sur ces chaussettophiles qui gardaient les chaussettes toute la journée, plus le soir.
Mmh.
Et apparemment, il y a un véritable microcosme dans le lit. Et du coup,
ouais.
Et ça soulève une autre question qu'on soulèvera dans cette émission. Pour ou contre la douche du soir, douche du matin ou douche du soir.
Ce sera un sujet fort.
Ce sera l'objet d'un sujet chez nous, Fabien, hein, bah, parce qu'on en a déjà parlé hors antenne. Je crois qu'on est de la même team.
Team du soir.
Ouais, team du
clairement,
soir.
On revendique la team du soir.
Oui.
Mais alors, cette histoire de chaussettes,
c'est
moi, ça me laisse
fou.
Sans voix.
Et
vous, les chaussettophiles, là, manifestez-vous.
Ouais.
Dites-nous un petit peu si vous êtes.
Il ne faut pas avoir honte. Moi, je sais que ma première fille, parce que j'ai deux enfants, ma première fille en fait ne dort qu'avec des chaussettes. Elle ne sait pas dormir sans chaussettes. Elle a vraiment besoin de ce confort aux pieds en fait pour dormir, de cette chaleur aux pieds. Par contre, les chaussettes sont propres. Mais que faites-vous, vous ? Quelles sont vos habitudes ? 079 918 3000. Hein, voilà, on ne vous jettera pas la pierre, vous. Si vous dormez avec des chaussettes, dites-nous pourquoi vous le faites et surtout, est-ce que vous les changez après la journée ?
Toute la nuit ?
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Necessary, they can only do harm.
À poil avec notre vétérinaire Marc-Antoine Bossard. Bonjour Marc-Antoine.
Oui, bonjour Sophie.
Le centre vétérinaire des Sources, c'est à Plainpalais bien sûr. Alors attention, attention, l'obésité, on a fait le chat la semaine dernière, on avait dit qu'on ferait une petite série. Hein. On parle de l'obésité du chien. Comment faire mincir nos toutous, qui sont toujours très gourmands d'ailleurs, comme tous les animaux, ils sont gourmands. Voilà, hein.
Comme moi.
Oui, oui, mais vous n'êtes pas un chien.
C'est presque plus facile de faire maigrir son chien que soi-même.
Ça, c'est vrai. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tout dépend de ce qu'il mange. S'il est aux croquettes, à la pâtée, s'il est aux riz viande, voilà quoi.
Bon, d'abord, il faut définir en surpoids ou carrément obèse. Donc, on a un BCS, Body Control Score.
Body Control Score, ok, d'accord.
Qui, en fait, se divise en plusieurs points. Donc, on peut objectiver le fait que le chien soit avec un bon poids ou s'il a surpoids, ce qui correspondrait en gros à 20% du poids normal. Et puis, au-delà, eh bien, ça devient de l'obésité. Et ça se compare à une pathologie, finalement. Donc, il y a des obésités qui sont dues à des problèmes hormonaux. Je pense que dans ces problèmes-là, il faut absolument voir le vétérinaire, faire un bilan sanguin. Et puis, s'il s'avère effectivement que tous les paramètres sont bons, mais que l'animal est trop lourd, eh bien, à ce moment-là, en discussion avec le professionnel, eh bien, on va diminuer la quantité de nourriture, l'adapter peut-être, et puis augmenter l'exercice, bien évidemment. Donc, il faut faire attention aussi à tous les petits goodies, les petits à côté qu'on peut donner.
On ne donne rien
selon
à table.
La taille du chien, ça peut correspondre parfois à 20-30% de son alimentation quotidienne. Ouais. Donc, attention aux à côté. Et puis, évidemment, l'animal, il va arriver dans un cercle vicieux où il va sans cesse demander ou redemander. Donc, il faut détourner son attention. Il faudrait un investir un peu plus de temps. Quand le chien devient, vous prend en otage à ce niveau-là, il faudrait le récompenser par une sortie, tout simplement, plutôt que par un goodies.
Oui, parce que, est-ce que vous pouvez juste signaler, alors je sais qu'on a l'impression de faire plaisir à nos chiens, on est d'accord, moi j'ai eu un chien aussi pendant des années, 15 ans et demi, sans compter ceux que j'ai eu avec mes parents. Honnêtement, faut pas donner à table, quoi. Faut pas donner, tiens, le petit bout de pain, c'est pas bon pour eux, vous pensez disons, leur faire plaisir, mais non.
On se met un boulet à la jambe, parce que le chien, à partir du moment où il prend cette habitude de recevoir quelque chose, il va aller quémander et il va aller toujours vers le maillon faible, celui qui va donner, qui va craquer finalement.
Tout ça, c'est de la psychologie. On croit faire plaisir à notre chien. En fait, c'est à nous qu'on se fait plaisir, parce qu'on identifie notre chien comme un humain.
C'est juste. Mais en fait, on va plonger l'animal dans une pathologie avec une obésité, donc des problèmes articulaires, des problèmes circulatoires. Et vous allez raccourcir finalement la vie de l'animal que vous voulez féliciter, que vous voulez récompenser.
Et que vous aimez, bien sûr, parce qu'il fait partie de votre famille.
Absolument.
On continuera à parler de l'obésité, c'est quelque chose qui peut revenir sur les chats, sur les chiens, évidemment. Marc-Antoine,
vous êtes... régime, entre autres.
Et régime, bien sûr. Vous êtes à retrouver en podcast sur la page. Il suffit de demander radiolac.ch. Je vous dis à la semaine prochaine.
Bonne semaine, Sophie.
Le meilleur de Lac, en replay
sur la nouvelle application Radiolac.
Ça fait partie des incontournables le matin, la petite tasse de café, Carole.
Oui, le café. Vous, amateur de café, il est fort probable que la première chose que vous fassiez lorsque vous sortez de votre lit le matin, c'est de préparer votre expresso,
oui,
votre americano, votre macchiato, votre latte, enfin bref, que sais-je, votre café. Hein, Béatrice Rulle, c'est la première chose qu'elle fait lorsqu'elle sort de son lit, Béatrice Rulle, aux infos.
Grande amatrice de café.
Eh oui, et vous buvez votre café. Et tu bois ton café. Toi
ouais,
aussi,
on peut
Fabien.
Tutoyer.
Oui,
allez, je parle. Je te le permets.
Je parlais à tous les deux. Toi aussi,
bah,
tu
oui,
bois ton café.
Évidemment, c'est l'incontournable. Je lance, c'est la première chose que je fais quand je me lève.
Pareil.
J'appuie sur la machine à café pour l'annoncer.
Et bah, vous faites tout faux. Bah oui, en même temps. Mais comme beaucoup d'auditeurs, au final, moi, je bois pas de café. Comme ça, je me désolidarise de tout. D'après les experts, boire du café à jeun ne serait pas du tout très, très bon le matin. Boire du café, dès que vous vous réveillez, en fait, pourrait interférer avec la production de cortisol de votre corps, ce qui pourrait vous rendre plus stressé, plus anxieux si vous passez directement à votre café avant de prendre
un verre d'eau. Ah. Elle est là l'astuce. Et je crois que Fabien,
moi je le fais déjà ça. Je le fais naturellement. J'avais lu quelque part que c'était, il fallait toujours. Mais alors, c'était un truc un petit peu erroné. Mais je pensais le faire pour protéger l'émail des dents, parce qu'il paraît que le café sur l'émail direct, c'est pas très bon.
C'est pas très bon. Alors non, pas du tout.
Moi c'est, j'avais lu, il fallait boire une cuillère d'huile, mais je le fais jamais.
Non, l'huile de foie de morue. Juste avant le café, ça passe bien. Non, on va pas se mentir. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Hein, on le sait. Elle permet de réguler la glycémie. Elle participe à la régulation de la pression artérielle, mais elle est également sollicitée lorsque le corps doit répondre à un événement stressant, mobilisant l'énergie nécessaire pour nourrir les muscles. Bref, toujours d'après les spécialistes, boire du café, donc à jeun, serait un très très bon moyen de perdre de l'énergie plutôt que d'en gagner. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est boire à jeun du café le matin, c'est le meilleur moyen de s'épuiser. Du coup,
c'est surprenant, ça,
les experts préconisent le fameux verre d'eau pour faire comprendre à ton corps, ton cerveau, ton estomac, etc. qu'il y a bel et bien quelque chose qui va t'hydrater avant le café et du coup, ne pas donc libérer cette production de cortisol. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, si boire le café le matin à jeun n'est pas la meilleure chose à faire, quand le boire ? Le moment idéal. Là, on est véritablement dans la journée du moment idéal.
Mais là,
hein, aussi bien
là,
pour le mariage.
En train
que...
de bousculer toutes nos habitudes, Carole. Mais tu t'attaques.
Mais lesquelles va pas nous dire 4 heures du mat.
Je le sais, j'en suis consciente, et c'est bien pour ça que je ne bois pas de café. En fait, je le fais parce que je ne bois pas de café, parce que si j'avais bu du café, j'aurais dit oh, je ne touche même pas à cette étude, je ne touche même pas à cette chronique, et je n'en parle même pas. Non, là, je me désolidarise de tout, et bien du coup, c'est la fin de la matinée, voire le début d'après-midi, c'est le moment idéal pour boire le café. Pourquoi ? Parce qu'on est 3 heures ou 4 heures après votre réveil, le niveau de cortisol est donc au plus bas dans votre corps et en plus, ça ne perturbera pas votre sommeil du soir.
Donc, ce qui veut dire on oublie le café au réveil et on attend la fin de matinée.
On oublie le café au réveil ou alors, en tout cas, on boit un grand verre d'eau et une demi-heure après, on boit son café. Même si une demi-heure après, c'est pas vraiment préconisé.
Bon ben voilà, il va falloir changer la petite routine du matin.
Voilà,
un petit verre d'eau avant de commencer le café.
Voilà, je suis navrée, mais je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui boivent leur café le matin au réveil, comme ça, en sautant du lit.
C'est le rituel. Rituel.
Et puis on est addict. Hein, c'est devenu une addiction, n'est-ce pas ?
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.